Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, nous sommes le mercredi 29 avril 2026. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab et vous avez bien raison. On commence tout de suite avec le flash d'Estelle.
Le Mali vacille. Les 25 et 26 avril, des groupes djihadistes ont frappé simultanément plusieurs villes, dont la capitale Bamako. Ce matin, le ministère des Affaires étrangères a tranché en recommandant aux ressortissants de quitter le pays dès que possible. Invisible depuis le premier jour des attaques, le chef de la junte, le général Assimi Goïta, est réapparu hier soir. Il se veut rassurant en évoquant une situation maîtrisée. Toutefois, il reconnaît une crise d'une extrême gravité et appelle les Maliens à ne pas céder à la division. Au moins 23 morts sont comptabilisés, civils et militaires, selon un nouveau bilan communiqué à l'AFP par une source hospitalière. Parmi eux, le ministère de la Défense malien, Sadio Camara, samedi dernier. Dernier jour d'une conférence inédite. Depuis le 24 avril, une cinquantaine de pays et territoires se sont réunis à Santa Marta, en Colombie. Avec un objectif, trouver des solutions concrètes pour sortir des énergies fossiles. La France et l'Union européenne sont de la partie. Mais les grands absents se remarquent. États-Unis, Chine, Russie, Inde, les plus gros producteurs d'énergie fossile. Cette conférence doit aboutir à un rapport pour une transition juste, ordonnée et équitable. Une plateforme de coordination devrait également être lancée en vue d'une seconde conférence internationale en 2027 à Tuvalu. Le rapport final sera soumis aux présidences des COP 30 et 31 en Turquie. La DGCCRF alerte de façon massive sur le caractère dangereux des produits en ligne de Shein, Temu et AliExpress. 46% des produits testés sont dangereux, d'après les autorités. Ulrich nous explique ce chiffre.
C'est une alerte sérieuse lancée ce mercredi 29 avril par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, comme vous l'avez dit. Selon son dernier bilan, les trois quarts des produits testés sur des plateformes en ligne comme Temu, Shein et AliExpress sont jugés non conformes et près de la moitié, soit 46%, présentent même un danger pour les consommateurs. L'enquête menée depuis avril 2025 repose sur une méthode de client mystère. Les agents ont commandé des produits sur plusieurs sites étrangers avant de les analyser en laboratoire. Au total, 650 références ont été examinées. Il s'agit des jouets, vêtements, bijoux ou encore des appareils électriques. Les résultats sont particulièrement préoccupants. Parmi les anomalies relevées, l'on note que des vêtements et accessoires contiennent des substances chimiques dangereuses, comme le cadmium. Des jouets présentent des risques d'étouffement ou d'indigestion de piles, ainsi que des appareils électriques défectueux. Les produits de coiffure sont particulièrement pointés du doigt, avec 73% d'entre eux considérés comme dangereux, notamment des sèches-cheveux et lisseurs pouvant provoquer des incendies. Au total, plus de 100 000 produits ont fait l'objet d'alertes et doivent être retirés de la vente. Pour les autorités, ces risques sont désormais qualifiés de généralisés. Le ministère de l'Économie évoque même un contournement systémique des règles par certaines plateformes. Une situation inédite qui pousse l'État à réagir, et ceci avec beaucoup de célérité. En réponse, le gouvernement annonce la création d'une cellule de surveillance baptisée Vige e-commerce. Cette structure interministérielle regroupera une trentaine d'experts issus notamment de la santé, des finances et de la répression des fraudes, avec pour mission de renforcer les contrôles. Les autorités n'ont pas manqué de prévenir. En cas de manquement persistant, des sanctions seront appliquées rapidement. Il faut rappeler qu'il y a un an, jour pour jour, c'est-à-dire le 29 avril 2025, le ministère de l'Économie présentait son plan d'action dédié à la régulation et la sécurisation du e-commerce face à l'explosion du volume de petits colis expédiés. Par ces plateformes, près de 800 millions en 2024, les autorités soulignaient déjà l'urgence de renforcer les règles et les contrôles.
Merci Ulrich. Les faits remontent au 15 octobre 2024 dans le 8e arrondissement de Paris. Après un conflit sur une piste cyclable, Ariel M, 53 ans, est soupçonné d'avoir volontairement écrasé Paul Vary, un cycliste de 27 ans, avec son SUV. Le parquet de Paris pointe un acte délibéré. Un procès est requis pour intention d'homicide, a appris hier l'AFP. Tous les témoignages décrivent une scène violente où le conducteur percute délibérément le jeune homme et accélère en lui passant sur le corps. La thèse de la défense d'Ariel M, qui affirmait avoir été terrorisée et a tenté de fuir, est écartée par le parquet. Brièvement remis en liberté sous bracelet électronique en avril, Ariel M est à nouveau en détention provisoire après l'appel du parquet. 20 ans que la loi existe. Et pourtant, selon l'APF, France Handicap, un établissement sur deux reste encore inaccessible pour tous. APF France Handicap attaque l'État en justice pour inaction sur l'accessibilité. L'information a été révélée ce matin par France Inter. L'association lance une série de recours en justice devant les tribunaux administratifs. Premier acte, la saisine du tribunal d'Orléans contre 6 préfectures de la région Centre-Val de Loire. Le ministère chargé de l'autonomie et des personnes handicapées assure qu'une dynamique est enclenchée. Une dynamique qui se traduit par 18 sanctions depuis l'été 2025 sur 2 millions d'établissements concernés. Et l'Université Rennes 2 fait tout pour ne pas compter parmi ces établissements inaccessibles. Mardi 5 mai, elle sera la première du Grand Ouest à signer une convention de partenariat avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, un accord valable 4 ans. David Lecor, correspondant handicap et responsable action sociale à la DRH de l'Université Rennes 2, et Emmanuelle Smirou, vice-présidente conditions de travail action sociale égalité et handicap, nous expliquent cette nouveauté.
Donc c'est une convention que nous allons signer avec le FIPH-FP, c'est-à-dire le Fonds d'insertion pour les personnels handicapés de la fonction publique. Donc le FIPH-FP, qui est rattaché à la Caisse des dépôts, finance en fait les établissements publics, les administrations, pour aider à justement accompagner les personnes en situation de handicap.
L'idée de cette convention, c'est vraiment de structurer sur plusieurs années le soutien et l'accompagnement de nos personnels dans leur travail. Et donc ça passe par des accompagnements organisationnels au niveau des emplois du temps, au niveau des équipements sur le lieu de travail, et puis des équipements techniques de manière à faciliter en fait hein, le travail au quotidien.
Les subventions vont être augmentées assez significativement quand même.
Oui, sur 4 ans, on a un subventionnement de 250 000 euros qui nous permet de soutenir une politique de recrutement de personnes en situation de handicap. Et puis également, ça va nous permettre de financer de la formation, de l'accompagnement et de l'information, de la sensibilisation à l'adresse de toute notre communauté. L'idée, c'est vraiment d'encourager aussi nos collègues d'autres structures et d'autres universités à peut-être nous emboîter le pas. Hein. Il y a peu d'universités qui ont conventionné en France, il me semble 17. C'est pas beaucoup et ce serait bien qu'on se mette plus dans cette dynamique de soutien et d'accompagnement. Nous, on a augmenté en fait nos effectifs, nos personnels en situation de handicap. En 18 mois, on est passé de 3,5 à 4,7%. Donc l'idée, c'est d'aller plus avant encore. Hein. Toute personne en situation de handicap a parfaitement le droit et nous, le devoir en fait, d'avoir des conditions de travail qui permettent de travailler dans la fonction publique facilement, sereinement et sans que le handicap soit un poids supplémentaire.
Merci Emmanuel Smirou et David Lecor au micro de Léonore. La colère après le choc. Entre 40 et 60 agents pénitentiaires ont bloqué l'entrée de la prison de Rennes-Vezin ce matin à l'appel du syndicat FO Justice. Un feu de palettes et de pneus a été allumé devant l'établissement à 11h. À l'intérieur, parloirs, activités et cantines des détenus ont été perturbés. Le mouvement a duré jusqu'à 17h. Les agents ont manifesté suite à la violente agression d'une surveillante par un détenu survenu lundi. On veut montrer à quel point les agents ont été marqués par l'agression, a déclaré un responsable syndical. Les surveillants dénoncent également ce qu'ils estiment être de mauvaises décisions de la direction. Au grand projet, priorité sur la aucun grand projet, priorité sur la réhabilitation. La ville de Rennes a voté lundi son budget 2026, 479 millions d'euros. Un budget en hausse par rapport à 2025 qui affichait 460 millions. La majorité de cette enveloppe, 342 millions, est consacrée aux dépenses de fonctionnement. Le reste, soit 137 millions, ira à l'investissement. Parmi les grands chantiers, la rénovation des écoles, des piscines et des bâtiments municipaux, la végétalisation des espaces publics et la construction de nouvelles crèches pour répondre à la demande des familles. La ville doit néanmoins composer avec des contraintes. L'État a imposé une hausse de cotisation retraite des fonctionnaires qui pèsera plus de 10 millions d'euros sur 4 ans.
Un flash signé Estelle Vasquez ce soir. Merci à toi.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
On passe à l'interview avec Romain Hubert.
Tupac, Eminem, Kendrick Lamar. Quand on pense au rap américain, les premiers noms qui viennent en tête sont souvent masculins. Pourtant, les femmes aussi ont façonné l'histoire du hip-hop en restant dans l'ombre et avec moins de reconnaissance. C'est tout l'enjeu de Queen Energy, une exposition à découvrir à l'université de Rennes 2 jusqu'au 28 septembre. Elle met en lumière 11 rappeuses nord-américaines qui ont marqué l'histoire du rap sous forme d'affiches. Une exposition conçue par 3 étudiantes en master langue et société, parcours Amérique. Deux d'entre elles sont avec nous aujourd'hui, Shona Ridar et Barbara Berthelot. L'une a une longue tresse plaquée et l'autre a ses longs cheveux blonds relâchés sur le dos. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Avant de parler du contenu de cette exposition, est-ce que vous pouvez nous décrire son affiche pour les auditeurs et auditrices qui ne peuvent pas la voir, donc les couleurs, le visuel, l'univers graphique, à quoi elle ressemble cette affiche ?
Alors, pour chaque affiche, on a décidé de représenter une rappeuse américaine. Donc en tout, ça fait un total de 11 affiches avec 10 affiches avec les rappeuses et une 11e avec une infographie comparative entre le rap US américain, rap US américain féminin et masculin du coup. Et du coup, bah, sur chaque affiche des rappeuses, on a décidé de mettre en avant leur style, leur univers, ce qu'elles représentaient aussi. Donc par exemple, si je peux donner des exemples, on a MC Light, donc elle, ça va être un dessin qui sera un peu plus pixelisé parce que c'est une des pionnières du rap US. Et par exemple, bah, Lil' Kim, ça va être des couleurs plus roses, plus pétantes parce qu'elle mettait vraiment en avant son image de femme pour mettre en avant sa musique aussi.
Donc c'est des affiches qui sont représentées par des dessins, c'est ça ?
C'est ça, on voulait faire des affiches qui ressemblaient un peu à des couvertures de magazines. Et donc du coup, sur chaque affiche, eh ben, on aura le dessin... d'une des rappeuses qu'on présente.
Et pourquoi vous avez choisi le dessin pour parler de ces 11 rappeuses nord-américaines et pas, par exemple, des photos ou des...
Alors, justement, c'était pour éviter tous les problèmes liés aux droits d'auteur, pour faciliter l'exposition et du coup avoir le droit d'exposer partout. On s'est dit que c'était mieux de faire des dessins, des stars, que plutôt d'utiliser des photos déjà existantes.
Et comment est née l'idée de consacrer une exposition sur le rap américain ? Féminin, pardon.
Bah alors, de base, c'était un projet universitaire, en fait. Nous, en Master 1 Amérique, on nous demande de créer un projet en lien, du coup, bah, soit avec l'Amérique du Nord, soit l'Amérique du Sud. Et on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, nous, notre enjeu, c'était vraiment faire une exposition qui nous ressemblait. Et du coup, bah, vu qu'on aimait toutes les trois la musique, on s'est dit que c'était cool de mettre en avant le rap US féminin.
C'est un genre que vous écoutez ?
Ouais.
Pas du tout, mais du coup c'est pour ça que c'est aussi intéressant de rechercher et d'exposer sur ce thème, parce que même si on n'écoute pas vraiment le rap ou le rap féminin, on a beaucoup de choses à découvrir ou à redécouvrir, et c'est pour ça qu'on a aussi fait cette exposition.
Quand on parle du rap américain, on pense souvent à des noms masculins. Historiquement, est-ce que vous pouvez nous dire quelle place les femmes occupent-elles dans cette culture ?
Bah, historiquement, je dirais pas qu'elles sont arrivées en même temps quand même, mais qu'elles sont plus arrivées dans les années 80 et qu'elles sont arrivées avec un style beaucoup plus dénonciateur, je dirais, parce qu'elles mettaient en avant la place de la femme dans la société, tout simplement. Et du coup, ça faisait qu'elles avaient beaucoup plus de choses à dire, au final, avec des paroles beaucoup plus impactantes. Et voilà.
Peut-être tu veux compléter ou...
Puis surtout, je dirais que leur place... Surtout ces dernières années, ça a été vraiment là où on a pris conscience qu'elles existaient grâce à leur pic, on va dire, de visibilité, qui sont moins importants sur la longue durée, mais qui sont quand même a mentionné depuis quelques années.
Donc l'objectif de votre exposition, c'est de réparer cette invisibilisation?
C'est ça, oui.
Et comment vous avez travaillé sur ce projet à trois? Qui s'est chargé de quoi au niveau de la création?
Alors du coup, moi et Tamar, qui n'est pas là, on s'est occupé de faire les portraits des rappeuses, donc les dessins. Et du coup, vu qu'on faisait les dessins, c'était plus facile pour nous de faire les affiches juste après.
Moi, je me suis plutôt chargée de l'infographie. Et après, pour les autres images, j'ai donné mon avis et aussi sur les règles d'accessibilité pour faire en sorte que tout le monde puisse profiter de l'exposition au maximum.
Vous avez choisi de mettre en avant 11 artistes. Selon quels critères vous avez construit cette sélection?
Alors, du coup, on a décidé d'en mettre 10 plutôt. On en a enlevé une. On a enlevé Nicki Minaj suite à des polémiques qu'elle avait faites. Et je dirais qu'on a choisi par rapport à l'impact qu'elles ont eu. Donc, personnellement, moi, j'écoute beaucoup de rap US. Donc, j'avais quelques noms en tête. Mais par exemple, MC Light, c'est vraiment l'une des premières rappeuses. Donc, je ne la connaissais pas. Et on s'est dit que...
ça serait une bonne idée de les faire découvrir, justement, de repartir...
Carrément.
Chronologie, oui.
Donc par rapport au prix qu'elles ont gagné, leur impact, notamment sur les réseaux sociaux aussi, on s'est dit que tout ça c'était important pour l'expo.
Est-ce qu'il y a eu des débats ou des choix difficiles au moment de retenir certaines artistes plutôt que d'autres?
On a longtemps réfléchi sur Nicki Minaj quand même, parce que en soi moi je dirais qu'elle a un peu bercé mon enfance, mais selon nos valeurs à nous, en tout cas ça collait pas, donc... On a décidé de l'enlever peut-être... j'avais déjà fait le dessin, mais genre peut-être 2 mois avant de faire l'exposition, on a décidé de l'enlever.
Et on peut retrouver qui d'autre?
Alors, tu veux répondre ou...
On peut retrouver Lil Kim, Dochi, on a Queen Latifah, Lauryn Hill et d'autres artistes comme Doja Cat et Cardi B.
Justement, tu viens de dire Lil Kim en premier. Je propose un avant-goût de l'exposition. On l'écoute tout de suite. Shut up, shit. I come from Bed-Stuy. As you can see, the two of them gon' die. Gotta keep the ratchet close by. Someone murdered. Nobody seen, nobody heard it. Just another funeral service. We'll get at you. Come through shining, they at you. And for a day like kidnap you. Let's get clapped through. Pourquoi avoir choisi cette artiste? Qu'a-t-elle changé dans l'essor du rap féminin?
C'est surtout dans ses clips. Alors, ce n'est pas l'extrait que vous avez passé, mais dans How Many Licks, qui est sorti dans les années 2000, son clip a été censuré parce qu'il a été jugé trop vulgaire et trop sexualisé. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était une très bonne artiste à mettre dans notre exposition pour découvrir comment est-ce qu'elle utilisait son image de femme dans le rap.
Elle a utilisé la sexualisation de son image comme un outil de réappropriation. En quoi ce geste est important dans le rap à son époque?
Son époque, je dirais que c'est parce que c'est la première à l'avoir fait. Parce que quand on regarde les pionnières, elles avaient plutôt un style masculin. Donc on les associait souvent aux hommes. Alors que vraiment, Lil Kim, elle a vraiment mis en avant son image de femme, au final, dans le rap américain.
Autre pionnière présente dans l'exposition... Queen Latifah. Pourquoi c'était essentiel pour vous de lui consacrer une place dans cette exposition?
Parce que du coup, elle, pour le coup, c'est l'une des pionnières. Elle a gagné quelques prix avec ses albums. Et c'est une qu'on revoit assez, pas forcément fréquemment, je dirais, mais elle a participé à des séries ou des choses comme ça, en fait. Donc vraiment, elle, sur le temps, elle a perduré. Et par exemple, quand je demande à mes parents, c'est vraiment la rappeuse qu'ils ont connue à l'époque. c'est peut-être pas la première parce qu'on a MC Light avant, mais on parle quand même de Queen Latifah dans les années 80-90.
Et en dehors de la musique, des extraits musicaux, là on va parler de l'exposition qui comprend aussi une infographie comparative sur les inégalités entre hommes et femmes dans le rap américain. On y voit que même les rappeuses les plus influentes restent moins récompensées et moins visibles que les hommes. Qu'est-ce que cela dit selon vous de l'industrie musicale aujourd'hui ?
Pour moi, ça dit que ça reste un monde encore très masculin, que ce soit au niveau des producteurs ou des artistes. Et même aussi dans les catégories pour les récompenses, généralement c'est soit des catégories mixtes où la plupart des personnes pouvant gagner des Oscars sont plutôt des hommes, ou alors il y a des catégories hommes et femmes, et dans ces catégories-là du coup il y a, on va dire, un peu la parité, mais dans les catégories mixtes on voit que c'est généralement des hommes qui prédominent et qui gagnent plus.
Est-ce que tu as un exemple précis ?
Notamment avec Kendrick Lamar qui a gagné 28, je crois, récompense, qui était dans la catégorie rap. Il y avait deux femmes dans toute la catégorie et elles n'ont pas gagné. C'est Kendrick Lamar qui a gagné à la place. Du coup, ça montre que même dans les catégories mixtes, le masculin a toujours sa place, en grande majorité.
Et c'était des femmes quand même assez influentes, si je ne me trompe pas, c'était Lauryn Hill.
Alors il y avait, oui, et il y avait aussi Nicki Minaj, du coup, aussi, qui était dans la catégorie et elle n'a pas gagné face à Kendrick Lamar.
Après avoir travaillé plusieurs mois sur ce sujet, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le rap américain féminin ?
Bah, comme disait Barbara tout à l'heure, je pense que le rap américain féminin, il est souvent associé à des pics de visibilité. C'est-à-dire que, par exemple, des années 2000 à 2010, je dirais qu'on n'a pas beaucoup entendu de femmes dans le rap. C'est arrivé avec Nicki Minaj, après on a eu Cardi B, puis la nouvelle génération. Mais on note quand même la pause qu'il y a eu entre ces années.
Est-ce qu'en étudiant ce sujet, vous avez appris des choses que vous ne connaissiez pas ?
Oui, bah notamment du coup l'écart dans les récompenses et surtout aussi, je dirais, les différences et les points communs entre les communautés et les fans des rappeurs. Peu importe leur genre, ils ont des points communs, notamment toujours à se rallier derrière leur cause de leurs artistes. Mais on voit que généralement les communautés des artistes masculins font beaucoup plus de bruit, se font beaucoup plus respecter et entendre et moins juger que les catégories des fans féminins.
Qu'est-ce que vous aimeriez que le public retienne de votre exposition ?
Que les femmes sont là, enfin, qu'il ne faut pas les oublier et que leurs musiques sont tout autant importantes que celles du rap US masculin au final.
Il faut les écouter, c'est Queen.
Exactement.
Et pour finir, est-ce que vous pouvez chacune nous donner une recommandation, donc une rappeuse américaine ou un morceau qui domine votre playlist en ce moment ?
À toi l'honneur, vas-y.
Bah franchement, je dirais pas que j'ai une rappeuse préférée, mais en ce moment, bah, je dirais que j'écoute plus Doechii, parce que c'est la nouvelle vague, c'est la nouvelle génération. Et aussi parce que bah, elle fait du rap, mais en même temps, c'est assez artistique ce qu'elle fait, quoi. Donc ça change un peu et j'aime beaucoup.
Et toi ?
Moi, je recommanderais plus Lil' Kim, parce que c'est la rappeuse avec qui j'ai grandi. Notamment How Many Licks, avec sa chanson, qui est passée quelques semaines à la télé quand j'étais petite. Et c'est vraiment ça qui m'a fait aimer le rap américain en général.
Eh bien, merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Je rappelle que l'exposition Queen Energy est à découvrir du 30 avril au 28 septembre sur la mezzanine du Tambour, bâtiment O, à l'Université de Rennes 2. L'entrée est libre du lundi au vendredi de 8h30 à 20h. Merci.
Merci. Merci.
6h avant minuit.
6h avant minuit.
Allumé. J'étais perdue dans les limbes de la radio. Je suis de retour, et oui. On passe à la chronique, et pour ce premier épisode d'Oracine de l'extrême droite, on va remonter le temps pour parler de Charles Maurras, figure de proue de l'extrême droite de la première partie du XXe siècle. Découvrons qui est cet antisémite assumé et anti-Dreyfusard convaincu. On reprend depuis le début, Léonore.
Allez, c'est parti. Maurras naît dans une famille catholique modeste le 20 avril 1868 dans les Bouches-du-Rhône. Sa surdité précoce l'empêche de faire une carrière militaire malgré ses qualités intellectuelles. Cette déception lui fait peu à peu perdre la foi. À l'origine sympathisant républicain, Maurras se tourne vers le camp monarchiste en 1889, année du centenaire de la Révolution.
Et c'est pendant l'affaire Dreyfus qu'on entend encore plus parler de lui, il me semble.
Tout à fait. Fervent antisémite, pour Maurras, il existe deux France, celle légale et celle réelle. Pour lui, les juifs français n'existent pas. Ils représentent les ennemis de l'intérieur et bénéficient d'une nationalité fictive. Il regrette la France d'antan et rejette la Révolution. Pour Maurras, la monarchie est la seule solution. Elle permettrait la paix publique et l'unité au sein de la France.
C'est pour ça qu'il décide de créer l'Action française.
Eh bien oui, si ses idées royalistes déboussolent d'abord l'extrême droite, il s'impose pendant l'affaire Dreyfus comme l'un des maîtres penseurs du courant. Après avoir collaboré avec plusieurs revues nationalistes, Maurras assoit son autorité en créant son journal, l'Action française, qui naît en 1908. Distribué par ceux qu'il appelle les camelots du roi, il propage sa doctrine, le nationalisme intégral. Son objectif, la restauration de la monarchie, ses ennemis, la République, les Allemands et les Juifs.
La Première Guerre mondiale n'impacte pas le mouvement de Maurras ?
Alors, 14-18 emporte beaucoup de ses fidèles qui tombent au front. Pourtant, l'entre-deux-guerres marque l'apogée maurrassienne. Le journal est tiré à 100 000 exemplaires par jour et l'Action française compte près de 60 000 membres. Dans ses colonnes, les journalistes phares sont Léon Daudet, écrivain antisémite, et Jacques Bainville, historien. Le journal est rempli d'écrits teintés de violence verbale avec des appels à la haine et au coup de force.
Et pendant la Seconde Guerre mondiale, alors, comment l'Action française se positionne, Léonore ?
Alors, c'est une très bonne question et la réponse peut paraître étonnante. Si Maurras voit d'un très mauvais œil l'arrivée des Allemands en France, il se range en 1940 derrière le régime de Vichy, soutenant évidemment les lois antisémites. Après la guerre, l'Action française sombre. Le journal est interdit et Maurras est condamné à Lyon à la perpétuité et à la dégradation nationale. Les chefs d'accusation, haute trahison et intelligence avec l'ennemi. Il meurt quelques années plus tard, le 16 novembre 1952, à Saint-Symphorien-les-Tours.
La pensée maurrassienne a-t-elle laissé des traces ?
Le mouvement Action française revendique environ 3000 adhérents et adhérentes en 2024. Selon Street Press, il serait plutôt aux alentours de 1000. Si ces paroles ont été bannées de l'espace public, ces idées restent portées par des mouvements d'extrême droite identitaire. Carole Reynaud-Paligaud l'explique à nos confrères de France Culture dans « Qu'est-ce qu'être maurrassien aujourd'hui ?»
Le nationalisme, la recherche d'un État fort, critique du parlementarisme, les origines chrétiennes de la France face à celui qu'on a désigné comme l'ennemi, ça c'est une dialectique typiquement maurrassienne.
Alors vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt de connaître l'histoire de ce Charles Maurras. Je vous dirai ceci, les mauvaises herbes poussent partout et pour les combattre, il faut en connaître les racines.
Merci Léonore, on te dit à bientôt pour un nouvel épisode d'Aux Racines de l'extrême droite. T'as déjà une idée de quoi tu vas nous parler la prochaine fois ou c'est trop tôt pour demander ?
Un peu, mais ce sera une surprise. Faut être à la semaine prochaine.
Super, j'ai hâte. Merci à toi. On écoute le répondeur.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
La radio sauvage.
Coucou l'équipe. Alors, vu qu'on est mardi et que l'émission est diffusée sur Syllab et puis sur Radio Bois, donc là pour le dernier dernière semaine du mois d'avril, il n'y a pas grand chose à part je vois sur mon compte Facebook que la nouvelle vague organise un apéro pour les musiciennes et les techniciennes. Je pense qu'il doit y avoir des musiciennes et techniciennes rennaises qui vont venir à Sonado ce jeudi 30 avril 2026 à 18h30. Donc c'est dans la salle club, donc c'est la salle du rez-de-chaussée, hein, c'est pas la grande salle qui est vraiment tout en bas. Donc voilà, et puis en ce moment, vu que il fait beau, mais on ne sait pas parce que toute la météo va changer bientôt, apparemment peut-être demain ou après-demain, je ne sais plus. Donc je fais un peu mon instant à Alain Gilloux-Pétré, donc l'ancien présentateur de météo de Antenne 2 et de TF1. Ce vendredi 1er mai, si vous voulez chiner dans le secteur de Saint-Malo, il y a le vide-grenier de Saint-Guigny, donc un vide-grenier qui est toujours le 1er mai, Je crois qu'il y a 300 ou 400 exposants, donc je ne sais pas. Après, voilà, j'espère qu'il va faire beau par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il a fait super beau. Mais bon, il y a des années où il pleut. Donc, bah voilà, si vous voulez aller jusqu'à Saint-Guinou, donc c'est entre Saint-Malo et Rennes. Donc voilà, c'est ce vendredi 1er mai, bien sûr, fête de travail, février oblige. Ou sinon, ce dimanche 3 mai, alors là par contre c'est du coup vers Rennes, ce dimanche 3 mai, si vous voulez chiner autre que des trucs, que vous voulez chiner un peu de musique comme moi, il y a la foire au disque au Hall du Lys à Rennes ce dimanche 3 mai 2026. Donc je pense qu'il y a tous les disquaires de Rennes, je pense à Philippe Dugroove, à Fred de Mindpot, à Seth Blanchet du Rocking Bomb, donc à peu près tous les disquaires rennais, mais aussi pas que du disquaires rennais, il y a aussi One Next Week Off, donc du disquaires nantais qui passe du bon reggae, de la musique soul, funk, jazz et tout, donc... voilà, si vous voulez chiner un bon vinyle à l'ancienne, ou même un vinyle neuf, c'est ce dimanche 3 mai 2026 au Hall des Lys. Donc voilà, et bien sûr, pour finir, je pense que ça va être la fin, si vous voulez voir l'expo de mon ami David Lucas, qui anime l'émission Allo à Fondren sur Canal B, son expo est disponible jusqu'au 3 mai ce dimanche pour voir toutes ses expos en Polaroid, de toutes ses émissions qu'il a fait de Allo à Fondren, où bien sûr j'ai le souvenir d'avoir passé pour les 40 ans de la radio de 7h du matin et que on peut retrouver. On peut retrouver mon interview directement sur le site de canadé.fr. Donc voilà. Allez, j'embrasse très très fort Héloïse et toute la rédaction de Silab. Et j'embrasse aussi les auditeurs et les auditeurs de Radio Boa. Et puis bien sûr, dans l'ensemble des auditeurs de Radio Boa. Voilà. Allez, gros bisous à vous. Ciao.
La bise Benoît, désolé, j'ai pas pu diffuser ton message hier soir, je l'ai reçu trop tard. Donc n'hésite pas à nous envoyer tes petites chroniques un peu plus tôt pour que j'aie le temps de les intégrer à l'émission. Faites comme Benoît, laissez-nous un message vocal 02 30 96 25 35. On vous écoute, on vous diffuse à la fin de l'émission. Merci Marilyn pour la technique et à demain dans 6h avant minuit.
La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.